Bonsoir. Votre émission Le Débat reçoit ce soir Malimba Tsakila, professeur anthropologue et doyen à la faculté des sciences sociales à l'université de Lubumbashi au Katanga. Nous avons aussi sur ce plateau Jeannot Chimbombo, assistant du directeur du cabinet du président national de l'église au Congo. Et enfin, maître Dominique Kamwandu, avocat de l'ONG Avocats sans frontières. Ils vont s'entretenir autour du sujet suivant. Mesures de protection de l'enfant. Ce code de protection de l'enfant doit-il être renforcé en RDC? Bonsoir.
Bonsoir.
En raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, l'enfant a besoin d'une protection venant de sa famille, mais aussi d'une protection juridique de l'État. De nombreux enfants se retrouvent désormais dans les rues du pays sans assistance, mais aujourd'hui, nous allons axer notre débat sur ceux qui sont dans la rue pour avoir été taxés de sorciers, appelés communément, à tort ou à raison, enfants sorciers. Nous allons commencer par Maître Dominique. Pouvez-vous nous dire que prévoit la loi dans des cas d'accusation de sorcellerie?
Merci beaucoup, madame. La question de la sorcellerie est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur dans notre pays à travers les rues de Kinshasa. On voit plusieurs enfants taxés des sorcières, rejetés par les familles, brimés, et certains sont même violentés. En principe, nous assistons là à des violations des droits des enfants. Les enfants sont des personnes vulnérables et la loi prévoit que ces enfants puissent grandir dans le cadre familial et que leurs parents puissent assurer sur eux l'autorité parentale. Par là, nous disons qu'ils doivent assurer leur garde, leur entretien, leur éducation et veiller à leur épanouissement. En ce qui concerne les accusations des sorcelleries ou des sorciers, il s'agit là effectivement des imputations dommageables sur la personne des enfants. On appelle imputation dommageable le fait d'imputer à une personne des faits précis, des natures, à souiller son honneur et à souiller sa considération et sa dignité. C'est effectivement à cela qu'on assiste. Sur le plan légal aujourd'hui, la sorcellerie en droit congolais n'est pas érigée en infraction. On ne peut pas accuser une personne de sorcellerie et nous constatons que ce sont des phénomènes qui ont pris de l'ampleur à cause de la situation socio-économique du pays. Il y a le problème de la pauvreté, il y a des personnes qui ne se rendent pas responsables de leurs actes et des situations qui leur arrivent et sont à la recherche des solutions dans le monde mystique, dans des églises. Et cela est à la base de beaucoup d'accusations de sorcellerie, non seulement sur les enfants, aussi sur les vieilles personnes et même sur des personnes adultes dans des familles. On remarque aussi avec l'éclosion ou la diversité d'églises dans notre pays, que beaucoup de gens vont vers des églises pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Et beaucoup d'animateurs d'églises ou les pasteurs saisissent parfois cette situation ou cette position fragilisée des personnes pour pouvoir révéler des choses qui parfois on dit, c'est révélé par l'Esprit Saint, parfois il n'y a pas eu vraiment un discernement approprié, et cela c'est aussi un moyen pour s'attirer beaucoup d'adeptes en se disant, bon, tel est prophète, il donne beaucoup de révélations, et cela attire beaucoup d'adeptes avec les conséquences que cela emporte aussi sur les caisses de l'église ou du pasteur. Pour revenir à la question de droit, je précise pour dire que lorsqu'on taxe une personne de sorcier, on est en train de commettre l'infraction que l'on appelle l'imputation dommageable et cela peut être poursuivi par la loi.
Voilà, vous avez parlé, si j'ai bien compris, on voit que vous faites ressortir quand même une certaine responsabilité d'une part des parents, mais aussi de l'État. Je ne sais pas, mais dans la vie actuelle, on voit quand même que l'État est démissionnaire. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour un cas de sorcellerie, mais quand même, il y a les parents, ceux qui abandonnent leurs enfants dans les rues. Est-ce que ces personnes-là peuvent être poursuivies par l'État?
En principe, la loi prévoit que les parents doivent assurer convenablement l'autorité parentale sur leurs enfants. Le fait d'abandonner les enfants dans la rue aujourd'hui n'est pas érigé en infraction. Mais cela ne veut pas dire que la responsabilité des parents n'est pas engagée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on dit que cela n'est pas érigé en infraction, c'est-à-dire que la loi ne prévoit pas que pour un parent qui a abandonné un enfant, on peut le citer en justice et il peut encourir telle sanction. La loi ne le prévoit pas. voit pas, mais avec des mesures qui ont été mises sur pied pour protéger, renforcer la protection de l'enfant. Il y a par exemple un projet de code de protection de l'enfant qui est mis en œuvre, qui a été préparé par divers acteurs de protection de l'enfant, les ONG, la société civile, les organismes des Nations Unies, les ONG internationales. Il y a eu un avant-projet de code de protection de l'enfant qui renforce les mesures de protection de l'enfant et qui prévoit même des sanctions et des peines pour certains manquements vis-à-vis à l'égard des droits des enfants. Et dans les cas d'espèce, la loi prévoit que les parents puissent s'occuper convenablement de leurs enfants. Lorsqu'il y a manquement, la loi prévoit que l'on peut prendre des mesures pour déchoir les parents de cette autorité parentale, mais les juges peuvent ordonner dans ces cas-là que l'on retienne à la source sur les salaires du parent démissionnaire les frais nécessaires qui doivent être versés à la structure qui s'occupe de l'enfant.
Problème encore très compliqué dans un pays où les gens ont difficilement leur salaire. Nous allons nous tourner du côté de M. Jano, qui est assistant du directeur du cabinet du président national de l'Église au Congo, M. Jano Timbombo. Comment arrivez-vous à déceler que tel enfant est sorcier et qu'un autre ne l'est pas? N'est-ce pas là du tour d'imagination de tout un chacun? Surtout quand on sait qu'un enfant peut être très difficile. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Merci madame. Toutefois, d'entrée de jeu, je suis un travailleur social spécialisé. En matière de sorcellerie, jadis, la sorcellerie c'était un phénomène qu'on rencontrait chez les vieilles personnes, surtout au village, particulièrement les femmes. Présentement, dans les milieux urbains, les ONG, nous retrouvons des ONG qui s'occupent des enfants, qualifiés des enfants de la rue. Mais pour votre information, je tiens à vous dire ceci. L'UNICEF qualifie ces enfants-là des enfants en situation particulièrement difficile. Qui dit situation particulièrement difficile fait refléter la situation socio-économique du pays. Toutefois, ces enfants, de par la convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant est tout être vivant âgé de moins de 18 ans. Il mérite la protection sur tout le plan. Mais qu'est-ce qu'on constate? Dès que la famille est plongée dans la misère la plus noire, la famille démissionne de ses obligations. On ne sait pas encadrer les enfants comme il faut pour leur faire jouir de droits reconnus par la CDE, en sigle convention relative aux droits de l'enfant, dont le droit à l'éducation, à la survie, à la protection ainsi qu'à la santé. C'est ainsi que ces familles-là, martelées par la misère socio-économique, dès qu'elles se retrouvent en face des indépendants, puisque moi, le DURCAB, il est DURCAB du président national de l'Église du Révé au Congo, les soi-disant prophètes des églises indépendantes qui, par manque d'informations suffisantes dans le public, on les associe à l'église du réveil du Congo, qui se disent prophètes des nations, qui commencent à révéler n'importe quoi auprès de parents de ces enfants-là. Dès que vous êtes dépassé par les événements socio-économiques, c'est facile que vous puissiez accepter que tel enfant, comme le prophète l'a dit, il est réellement sorcier, c'est lui qui est le mobile du frein dans mon foyer, c'est pourquoi je ne trouve pas de l'emploi, c'est pourquoi je ne m'épanouis pas. Et comme moyen de défense, dès que l'enfant est soumis à des tortures, puisque ces prophètes-là ont de moyens compliqués qui ne protègent pas les enfants, dès que l'enfant trouve que je suis soumis à des tortures, pour s'échapper, l'enfant choisit d'être libre sur la rue. C'est ainsi que nous assistons à ces phénomènes des enfants, communément appelés enfants de la rue.
Oui, mais monsieur Jeannot, je vous comprends bien, là vous êtes en train de fustiger un peu les églises de réveil, entre guillemets. Votre église, si je peux dire, s'appelait une structure. C'est quand même un peu organisé. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas des garde-fous ou bien vous n'aidez pas les gens à limiter les dégâts? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'abus. Si on parle de phénomène enfant sorcier, c'est un peu favorisé grâce aux églises de réveil.
Madame, je reviens à ce que vous voulez dire, église de réveil. Pour votre information, l'église de réveil au Congo, c'est une confession religieuse congolaise reconnue officiellement qui est bien organisée, bien structurée. Cette église regroupe à son sein des communautés, des plateformes, des églises locales issues du mouvement charismatique. Le mouvement charismatique n'a rien à voir en cette matière-là d'infliger aux enfants les sorts des sorciers. Pour plus de précision, ce sont plutôt les soi-disant prophètes qui germent ça et là que l'opinion aligne au titre de l'église du réveil au Congo qui font objet de la sorcellerie qui inflige les enfants les sorts d'être sorciers face aux parents qui sont déjà affaiblis par la misère.
Ok, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Nous tournons du côté du professeur Malemba Nsakila. Professeur, vous êtes un scientifique. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la sorcellerie, si elle existe effectivement, et comment peut-on la démontrer?
Merci madame pour la question que vous me posez. Je sais que la sorcellerie, on ne peut pas en discuter. D'ailleurs, à travers les interventions des deux premiers, de mes prédécesseurs, on relève que la sorcellerie existe. Mais elle existe dans quelle mesure? Dans trois mesures. D'abord, elle est un pouvoir métaphysique, surnaturel, et un pouvoir qui crée, c'est la deuxième mesure, des actions qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qui ne sont pas données au premier de nos frères. Et enfin, la sorcellerie renvoie à une théorie élaborée par la société, un discours qu'utilise la société et pour expliquer tout ce qui ne peut pas encore être expliqué, ce qui est inconnu ou ce qui échappe à l'entendement ordinaire. Ici, je voudrais signaler que la sorcellerie est un phénomène tout à fait universel, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la planète. Toutes les sociétés humaines connaissent et vivent ce phénomène, certes à des degrés divers, mais le principe reste le même et la pratique se conforme à la configuration de la société ainsi qu'à l'histoire de chaque peuple. Et pour dire qu'au niveau de la théorie, la société y met beaucoup d'éléments qui relèvent de plusieurs domaines, du domaine spirituel, du domaine social, du domaine psychologique, même idéologique, et politique et économique. Et chaque fois qu'il y a production du discours au regard de la pratique de la sorcellerie renvoyant à un pouvoir extraordinaire, il y a tout un complexe qu'il faut démêler parce que parfois, et souvent c'est le cas, on recourt à une symbolique, c'est-à-dire à une représentation figurée, surdéterminée, des formes, des idées qui nécessitent un déchiffrage sur base d'une connaissance appropriée. Et souvent, ce discours n'est pas gratuit, n'est pas fortuit, il a lieu à des moments bien précis de la vie en communauté, parce que la sorcellerie n'est pas possible lorsque on vit seul. Elle n'est possible que au sein, j'ajoute, grâce et dans la communauté. Alors, la sorcellerie étant un fait de la collectivité, la sorcellerie permet à la société de s'exprimer, d'exprimer un besoin, d'exprimer un problème qu'elle a envie de trouver une solution. Donc, la sorcellerie est un phénomène de société. C'est ainsi que je dirais au maître que, certes, c'est une implication dommageable, mais étant phénomène de société, la société a besoin d'une solution à son problème. Et d'ailleurs, en droit, on sait bien que à chaque société correspond son droit. Et voyant même la base actuelle du droit positif, une infraction a un élément d'ordre moral et puis un autre d'ordre matériel. Et dans l'élément moral, on peut retenir une intention, laquelle intention peut donner lieu à la confirmation d'une infraction dans le chef de tel ou de tel. Et partant de cette intention, je pense, c'est une brèche qui est ouverte pour que la sorcellerie puisse être inscrite dans la législation du droit positif congolais et faire objet, comme on aurait dit, d'une chose de droit. Et la sorcellerie, certes, s'inscrit dans une période donnée, tenant compte des circonstances que vit la société, mais elle demeure de tout le temps. Et on ne peut pas trouver un seul moment où la société ne connaît pas la sorcellerie. Par rapport à ce que M. Jeannot a évoqué, il n'y a pas que la misère, mais on peut aussi ajouter l'instabilité de la famille, l'instabilité du groupe social. Et ici, nous devons reconnaître que la dynamique sociale de notre pays est telle que nos populations sont soumises à une forte poussée des éléments qui viennent du dehors et qui perturbent pratiquement pas seulement la vision, mais aussi les assises de la vie en communauté. Et cela, en conséquence, un déséquilibre, une impasse, et comme il faut toujours trouver une solution à un problème, la société, aujourd'hui, notre société, passe par la sorcellerie et voudrait que son problème soit résolu.
Professeur, nous reviendrons à vous un peu plus tard. Vous avez largement dépassé le temps vous imparti. Nous revenons à Maître Dominique Camandou. Nous rappelons qu'il est avocat dans l'ONG Avocats sans frontières. Le professeur vient de parler d'un phénomène de société et qu'il faudrait chercher aussi des solutions par rapport à notre culture congolaise. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'institutionnaliser des tribunaux un peu spéciaux pour ce genre de cas?
Merci beaucoup, madame. Je reviens d'abord à la préoccupation que le professeur a soulevée tout à l'heure en parlant d'un phénomène social reconnu, en parlant de l'infraction. En principe, pour qu'il y ait une infraction en droit, on retient trois éléments. Il y a d'abord l'élément légal, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une loi qui réprime un fait bien précis et qui détermine le comportement répréhensible et la sanction applicable. Le deuxième élément, c'est l'élément matériel, c'est-à-dire que pour qu'on puisse arriver à établir qu'une infraction a été commise, on doit déterminer les actes par lesquels cette infraction s'est matérialisée. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quand on parle de l'infraction de vol, l'élément matériel de l'élément du vol, c'est le fait de prendre à l'insu du propriétaire, de manière frauduleuse, un fait. Et comme élément, un bien, dans le but de s'en approprier ou d'en faire un autre usage. Le fait de prendre un bien ne vous appartenant pas, c'est un acte matériel qui peut être prouvé. Et dans le cas d'espèce, sur les plans scientifiques, on a du mal à établir l'acte matériel des sorcelleries et les liens de causalité entre l'acte posé et la conséquence sur les plans rationnels et scientifiques. Je prends un exemple banal. On taxe quelqu'un de sorcier, il entre dans la chambre de Thérèse, il prend un morceau d'habit de Thérèse, de ton pagne, ou le lacet d'une de tes chaussures, et l'amène faire des séances mystiques. Est-ce que sur le plan rationnel et scientifique, on peut prouver matériellement que le fait de prendre un morceau de pagne peut causer la mort, ou le fait de prendre un billet de 100 francs dans l'enveloppe de ton salaire que tu as ramené à la maison fait que tu aies des ennuis dans ta vie professionnelle avec ton employeur? Matériellement et scientifiquement, cela ne peut pas être prouvé de manière systématique si on parle vraiment de la science juridique. Ça, c'est ce qui est l'élément matériel. On doit établir les actes matériels de l'infraction. Et le troisième élément, c'est l'élément moral. L'élément moral, c'est l'intention. L'acte est posé de manière consciencieuse et l'intention de nuire à une personne, l'intention de causer du tort ou de commettre un acte que l'on sait interdit par la loi. Et ces trois éléments sur le plan légal sont cumulatifs. Ce ne sont pas des éléments alternatifs. C'est-à-dire que si on établit un élément sans les deux autres, on ne peut pas sanctionner pour l'infraction n'est pas établie. Pour que l'infraction soit établie, tous les trois éléments doivent être réunis. Et c'est devant cette difficulté que la science juridique et même la rationalité et le bon sens n'arrivent pas à établir pour arriver à réprimer la sorcellerie. Okay. Donc c'est ça la difficulté sur le plan juridique de pouvoir réprimer la sorcellerie. Et le deuxième problème, c'est la preuve. En droit, on ne peut pas sanctionner sans preuve. Lorsqu'il y a moins de doutes, on acquitte. C'est pour cela qu'on dit en droit que les doutes profitent aux prévenus. Dès qu'il y a moins de doutes, on acquitte. On ne peut sanctionner que lorsqu'on a des convictions sérieuses et des preuves réellement établies. C'est ça la difficulté en droit pour pouvoir sanctionner et réprimer la sorcellerie. Parce que personne, même les sorciers eux-mêmes, devant un tribunal, n'arriveront pas à établir tous ces éléments et à les prouver juridiquement et de manière rationnelle.
Ok, Maître Dominique, avant de passer à M. Jeannot Kimbombo, je reviens à ma question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'on instaure des structures un peu spéciales pour nos réalités à nous africaines, dans ce cas plus particulièrement de la sorcellerie?
Le problème qui se pose est celui-ci. Des structures un peu spéciales veut dire aller au-delà de la légalité. Quand nous allons au-delà de la légalité, nous allons dans l'anarchie et l'arbitraire. Et il y a risque que l'on puisse verser vers l'anarchie, vers des règlements de comptes et vers plusieurs abus. Nous connaissons beaucoup de personnes dans la société taxées à tort des sorciers. Quid si ces personnes étaient présentées devant ces structures informelles, ces structures spécialisées, et que ces personnes arrivaient à être condamnées? Donc nous risquons de glisser vers l'illégalité et l'anarchie et l'arbitraire.
Monsieur Zano Simbombo, nous venons d'écouter les deux intervenants. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela?
Normalement, madame, le phénomène de la sorcellerie, c'est un phénomène métaphysique tel que le professeur vient de le dire. C'est un problème qui dépasse l'entendement humain. En travail social, je vous cite un cas. Un enfant qui a l'habitude de pisser pendant qu'il dort. Vous vous retrouvez devant quelqu'un qui s'autoproclame voyant. Il vous dit d'office que l'enfant est sorcier. C'est pas pour rien qu'il fait pipi sur les lits. C'est pendant que son esprit part, le corps reste, il perd le contrôle, il fait pipi. Or, en travail social, c'est un problème de santé mentale. On doit procéder par l'éveil du cerveau de l'enfant. On doit l'habituer à pisser à des moments suivis chaque nuit. Pendant trois nuits au moins, vous verrez qu'automatiquement, l'habitude va renaître dans le cerveau de l'enfant. Dès qu'il a besoin de faire pipi, il va facilement faire pipi sans problème. Mais comme nous sommes dans un environnement socio-économique à problème, j'ai parlé de la crise socio-économique, le professeur vient d'ajouter l'instabilité des familles. Mais l'instabilité ne repose que sur la crise socio-économique.
Oui, mais beaucoup de familles, avec cette crise, se sont tournées vers les églises. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez l'obligation de les éduquer, de les encadrer, surtout quand on est devant des enfants, comme vous le dites, dans des situations difficiles?
Particulièrement difficiles, voilà. Certainement. L'église du Réveil au Congo, il y a l'encadrement de pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui se passe. Moi, j'ai été invité à les évaluer. Qui se passe par moment. On leur parle du message à passer, comment formuler leur message, tenir compte aussi de l'auditoire. Alors, madame, à mon humble avis, le problème qui demeure, c'est un problème purement psychologique et métaphysique. Certes, la sorcellerie a existé, jadis. La sorcellerie existe dans des milieux reculés. Mais pour l'instant, l'Église du Réveil au Congo, c'est basant sur un courant charismatique, encadre tous les serviteurs qui sont adhérés à cette confession religieuse quant à leur message à transmettre à quel que soit le type de l'auditoire. On ne peut pas, ne fût-ce qu'un instant, tolérer qu'un serviteur de Dieu faisant partie de l'Église du Réveil au Congo puisse avoir un message qui incrimine tel ou tel enfant des sorciers. Partant du cas que je viens de d'illustrer ici, un enfant qui pisse sur les lits. Si vous n'êtes pas bien préparé psychologiquement, il suffit qu'un voyant se présente devant vous et vous dit « cet enfant est sorcier ». Est-ce que vous avez déjà appris dans une famille aisée qu'on qualifie ou qu'on incrimine un enfant de sorcier? Cela ne se passe que là où la pauvreté sévit. C'est suite à la pauvreté que les enfants, les parents démissionnent de leur obligation de protecteur. Et ils abandonnent les enfants à n'importe qui. N'importe qui peut donner n'importe quel message pour qu'il puisse gagner son pain quotidien et laisser la famille en débandade.
Nous arrivons là à la fin de cette émission. C'est le troisième tour. Nous allons, donc nous laissons une minute à chacun pour conclure sur ce thème. Donc, revenons à vous, Maître Dominique, vous avez la parole.
Je reviens pour dire que la question de la sorcellerie, particulièrement, je vais attirer l'attention sur le phénomène que l'on voit aujourd'hui en ce qui concerne les enfants dits sorciers. Ces enfants sont des personnes vulnérables qui méritent protection et assistance de la communauté. S'il y a des comportements pervertis rencontrés, les églises peuvent aider les enfants en les encadrant et par de bonnes prières et pas soumettre des enfants à des supplices, à des séquestres et à séquestrer les enfants, les priver d'aliments. Ça, c'est un comportement antisocial et réprimable par la loi.
Alors, est-ce que le code de l'enfant doit-il être renforcé selon vous?
Moi, je pense que les mesures de protection de l'enfant à travers le projet de code de protection de l'enfant qui est en train d'être préparé les mesures doivent être protégées et les sanctions sévères doivent être prévues dans ces textes pour pouvoir poursuivre toutes ces personnes qui commettent des graves violations sur les enfants.
Merci. Nous passons directement à M. Jeannot Chimbombo pour le mot de la fin.
Les phénomènes enfants dissociés, c'est un phénomène purement social, qui a son origine dans les déséquilibres socio-économiques, si je reviens sur mes propos. Moi, de ma part, j'interpelle les dirigeants de la nation congolaise à bien vouloir restaurer la place de la famille. La famille comme étant la cellule de base. Puisque dès que nos familles auront un pouvoir économique suffisant, madame, vous n'assisterez jamais à ces phénomènes enfants en situation particulièrement difficile. Cela, c'est ce que j'ai pu dire pour l'instant.
Ok, nous allons conclure l'émission avec le professeur Malimba Nsikila. Professeur, pensez-vous que cette loi doit être renforcée?
Oui, le droit doit être renforcé et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a des raisons pour que le droit positif congolais considère la réalité congolaise et puisse se repenser ou être repensé. Et le phénomène des enfants qui sont dissociés est un phénomène de ce temps, de ce moment, avec toutes les dimensions que nous pouvons lui reconnaître. Et cela n'engage pas seulement la responsabilité des parents, mais aussi la responsabilité de l'État. Par exemple, nous pouvons noter que les espaces publics où se retrouvent ces enfants, n'est pas, ces espaces ne sont pas surveillés par le pouvoir public. Et c'est parce que ces espaces sont tout à fait libres, ces enfants s'y retrouvent. Mais quoi qu'il en soit, conformément à l'article 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant a droit à la vie, et il ne doit pas subir un mauvais traitement. Même s'ils sont dissociés, ils doivent être protégés. Et cela interpelle tous les niveaux de notre société, l'Église, la famille, l'État et même le reste de la société. Et ici, nous devons relever que tous les enfants qui sont dissociés ne sont pas sorciers parce que là-dedans, il y a la société qui s'exprime, c'est un discours social, parce qu'il y a des enfants qui peuvent être surdoués, des enfants qui se retrouvent en contradiction avec le deuxième mariage de l'un des parents, les enfants qui sont victimes des difficultés de la scolarisation ou qui sont victimes des exigences de l'urbanisation, ces enfants-là ne sont pas sur le plan métaphysique des sorciers, mais ce sont des sorciers sociaux. Et pour terminer, je dirais qu'il est temps que le pouvoir public à la tête pour chercher des solutions adéquates parce que ces enfants demain seront appelés à assumer des responsabilités en tant qu'adultes.
Mesures de protection de l'enfance, le code de protection de l'enfant doit-il être renforcé en République démocratique du Congo? C'était là le thème de notre débat. On participait à notre émission le professeur Malimba Nsikila, professeur anthropologue et doyen à la faculté des sciences sociales à l'université de Lubumbashi, c'est au Katanga. Monsieur Jeannot Chimbombo, directeur du cabinet du président national de l'Église du Réveil au Congo, et Maître Dominique Kamwandu, avocat de l'ONG, avocat sans frontières. Merci à tous nos invités et à la prochaine.